Chers auditeurs, je suis ravie de vous retrouver pour notre méditation de la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons ouvert ensemble les livres de Juges et nous y resterons encore aujourd'hui et même la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vous propose de connaître et méditer l'histoire de Gédéon. Je vous avoue que c'est mon personnage préféré de l'Ancien Testament. Je les aime tous, bien sûr, mais Gédéon m'a aidé à faire un grand pas dans ma vie spirituelle et missionnaire. Je crois que Gédéon peut être aussi un remède pour tant de mal dans notre société. Dans le monde actuel, nous avons tous un grand problème. Au moins, celui-ci est un problème commun. Nous n'arrivons pas à faire, à réaliser ce que nous voudrions. Voilà, c'est ça notre problème. Et pourquoi nous n'arrivons pas à réaliser ce que nous voudrions? Ben, parce que nous sommes faibles. Et parce que nous vivons avec des personnes faibles. Parce que nous nous décourageons très facilement. Parce que nous ne nous croyons pas capables. Et je pense que ce problème devient encore plus grand face aux choses que Dieu nous demande, face aux appels spirituels. Par exemple, quand j'ai décidé de voir les côtés positifs de chaque situation, parce que je sais, je ressens que Dieu m'appelle à faire ça, mais de suite, à la première difficulté de la vie, je n'arrive pas à voir les côtés positifs et je me décourage. Et je ne continue même pas mes efforts, car je me dis, je suis incapable. C'est comme ça, je ne changerai jamais. Et tant d'autres situations que vous connaissez très très bien. Et voilà que Gédéon peut nous montrer un chemin qui nous est possible pour changer, pour faire autrement. Écoutons son histoire. Je vous invite bien évidemment de lire toute l'histoire de Gédéon dans les livres de Juges, les chapitres des 6 à 8. Mais nous allons lire ici seulement les débuts de son histoire. Écoutons-le bien.
Les fils d'Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et le Seigneur les abandonna à Madian pendant 7 ans. Madian imposa sa puissance à Israël. À cause de Madian, les fils d'Israël aménagèrent dans les montagnes des failles, des grottes et des lieux escarpés. Chaque fois qu'Israël avait fait les semailles, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, ils attaquaient Israël. Ils campaient auprès d'eux et dévastaient les produits du pays jusqu'aux abords de Gaza. Ils ne laissaient à Israël ni vivres, ni moutons, ni bœufs, ni ânes. Ils arrivaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, comme une multitude de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils envahissaient le pays pour le ravager. À cause de Madian, Israël fut réduit à une grande misère. Et les fils d'Israël crièrent vers le Seigneur. Comme ils criaient vers le Seigneur au sujet de Madian, le Seigneur leur envoya un prophète qui leur dit « Ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. C'est moi qui vous ai fait monter d'Égypte et vous ai fait sortir de la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit « Je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Mais vous n'avez pas écouté ma voix. » L'ange du Seigneur vint s'asseoir sur les térébintes d'Ophra, qui appartenaient à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait le blé dans le pressoir pour soustraire au pillage des Madianites. L'ange du Seigneur lui apparut et lui dit « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » Gédéon lui répondit, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, Pourquoi tout ceci nous est-il arrivé? Que sont devenus tous ces prodiges que nous ont racontés nos pères? Ils nous disaient, « Est-ce que le Seigneur nous a pas fait monter d'Égypte? » Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a abandonnés en nous livrant au pouvoir de Madian. Alors le Seigneur regarda Gédéon et lui dit, « Avec la force qui est en toi, va sauver Israël du pouvoir de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon reprit, « Pardon, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus faible dans la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Le Seigneur lui répondit, « Je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il n'était qu'un seul homme. » Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici avant que je revienne vers toi. Je vais chercher mon offrande et je la placerai devant toi. » Le Seigneur répondit, « Je resterai jusqu'à ton retour. »
Son histoire commence sur le même modèle que les autres histoires de juges. Nous avons un juge précédent qui meurt. Israël s'éloigne de Dieu et de suite tombe dans les mains de ses ennemis. Cette fois-ci, ils s'appellent les Madianites. Nous voyons le peuple d'Israël bien dispersé et un peuple opprimé. Le texte nous dit qu'à cause des Madians, les Israélites utilisèrent les crevasses des montagnes, les cavernes et les refuges. Les pauvres, ils doivent se cacher. Et l'auteur du livre nous décrit une guerre un peu bizarre. Déjà, nous savons que cette guerre dure pendant 7 ans. Au verset premier, nous lisons « Yahvé les livra pendant 7 ans aux mains des Madianites ». Nous savons bien que dans la Bible, le nombre 7 veut dire la plénitude. Donc 7 ans veut dire plénitude de guerre. Une situation telle que pire ne peut pas être. Cette guerre consiste en quoi? On ne voit pas de combat dans ces passages. Bien sûr, il y a un combat, mais en arrière-plan. Et les Madianites, ils ont tellement opprimé Israélites qu'ils n'ont même plus besoin de se battre. C'est assez étonnant. Les Israélites ont tellement peur qu'ils ne se défendent plus. Comme quoi, la peur, c'est la meilleure des armes dans les combats. Il n'y a plus de combat. Les Madianites laissent Israël s'aimer et s'occuper de la terre, mais au moment de la récolte, ils arrivent et ils ravagent tout. De façon que le peuple d'Israël n'ait rien pour se nourrir. Avec les bétails, c'est pareil. Dès qu'il y a des naissances dans les troupeaux, les Madianites arrivent et ravagent tout. Est-ce que cela vous fait penser à quelque chose? Moi, je me mets à la place de ce pauvre Israël. Combien de fois, moi aussi, je travaille? Je fais tout pour arriver à mon but. Je me fais des efforts. Et arrivent les Madianites et ils ravagent tout. À chaque fois, par exemple, où je me dis « J'ai grandi en ceci, j'ai vraiment changé », pof, les Madianites ravagent tout. Par exemple, je constate dans ma prière que je suis plus patiente. Et à peine je le pense, je rencontre une personne qui me fait perdre la patience. Voilà, les ravages des Madianites. Tous les efforts rasés. On recommence à zéro. Et pour une fois, ça va. On se dit, c'est bon pour l'humilité. Mais si cela, ça nous arrive à chaque fois, pendant 7 ans, comme pour Israël, c'est à devenir fou ou dépressif. Imaginez dans quel état Ils étaient ces pauvres Israélites. Et cherchons-nous aussi sur quoi Dieu fait plus souvent les ravages dans ma vie. Sur quelle vertu il me fait tomber le plus souvent. Nous trouvons finalement Gédéon. Gédéon est le plus petit des sept frères. Il est le dernier. Probablement, Gédéon n'a pas connu le temps meilleur pour Israël. Depuis toute sa vie, il subit les ravages des Madianites. Quand Dieu envoie son ange pour appeler Gédéon à devenir chef de son peuple et pour libérer son peuple de l'oppression des Madians, où se trouve Gédéon? Regardons bien cette scène, elle est délicieuse. Gédéon se trouve dans les pressoirs, caché par la peur. Parce que, comme nous dit le verset 10, il bat les blés pour les soustraire à Madian. Donc, je suppose que les blés étaient verts. Il a ramassé avant le temps pour sauver quelque chose pour son peuple, avant que les Madianites arrivent et font leur ravage. Du blé vert, il n'y a pas de grand profit, mais c'est toujours mieux que rien. Donc, il est au fond du pressoir, avec son bâton à la main, et en faisant un travail inutile, battre le blé vert. Ses frères sont à la guerre, avec des épées, et ils se battent pour son peuple. Mais Gédéon, avec les bâtons à la main et avec son blé vert, et c'est là qu'arrive l'ange du Seigneur et il salue Gédéon. Écoutez bien comment il le salue au verset 12. Yahvé est avec toi, vaillant guerrier. J'adore cette phrase. C'est la meilleure de la Bible. L'ange du Seigneur se moque de Gédéon. Un jeune garçon, avec un bâton à la main et en faisant un travail inutile, et l'ange lui dit « Salut, vaillant guerrier !» Bien sûr que l'ange voit déjà vaillant guerrier que Gédéon deviendra. Mais là, c'est rigolo d'entendre cette salutation. La situation est tellement ridicule. Mais non, en effet, quand Dieu appelle, c'est toujours comme ça. Quand Dieu m'a dit « Kasia, tu seras missionnaire », je pensais qu'il s'est moqué de moi. Parce que moi, j'ai regardé ce que j'étais au moment de l'appel. Et Dieu, il voyait déjà ce que j'allais devenir. Ce que lui allait faire dans ma vie. Et parfois, pour nous tous, c'est pareil. Oui, Dieu te demande de faire ceci ou cela, parce qu'il sait déjà, et il le voit, que tu seras capable. Oui, Dieu te dit aujourd'hui, tu seras saint, sainte, et c'est vraiment possible. Gédéon réagit comme nous, face à un appel. Il commence à se défendre. Au verset 13, nous lisons « Gédéon lui répondit, « Je t'en prie, mon Seigneur, si Yahvé est avec nous, d'où vient tout ce qui nous arrive? Où sont tous les prodiges? Yahvé nous a abandonnés. » Autrement dit, « Moi, non. » Regarde autour et regarde ma vie. C'est impossible, je ne suis pas capable. Je ne crois plus à une libération. Nous répondons également en nous défendant aux appels de Dieu. Je me rappelle dans mon histoire personnelle Les arguments que j'ai présentés au Seigneur quand il m'a dit qu'il voudrait que je sois une missionnaire. Je lui disais que je suis trop faible, trop fragile, de santé, incapable d'apprendre une langue, je suis tellement timide, etc., etc. Et je suppliais presque le Seigneur qui ne me demande pas ça. Et c'est à ce moment-là que l'ange prononce une phrase qui a changé ma vie. L'ange dit à Gédéon au verset 14 « Va avec la force qui est en toi. » Chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, nous sommes profondément, mais vraiment profondément convaincus que pour réaliser ce qu'il nous demande, nous avons besoin de dons extraordinaires. Regardons un peu nos prières dans les moments difficiles. Nous prions « Seigneur, donne-moi le courage, la force pour surmonter telle épreuve. Rends-moi capable, augmente en moi ceci ou cela. » Et l'ange, qu'est-ce qu'il dit ? « Va avec la force qui est en toi. » C'est ça la vraie confiance, le vrai abandon filial. Parce que si je crois que Dieu est mon Père, et c'est un Père qui m'aime infiniment et qui me connaît, comment je peux penser qu'il me demande des choses qui sont au-dessus de mes forces et de mes capacités? Si Dieu me demande d'accomplir une telle tâche ou faire face à une telle situation, c'est-à-dire qu'il sait que je peux le faire. Il m'a déjà tout donné pour que je puisse le faire. Et dans l'histoire de Gédéon, Dieu lui montrera que Gédéon a besoin beaucoup moins de ce qu'il a pour réaliser le plan de Dieu. Dans la suite de l'histoire, Gédéon rassemble son armée. Il rassemble 32 000 hommes. C'est pas mal. Gédéon commence à prendre la confiance. Mais, dans la même nuit, Dieu lui dit « En fait, tu en as trop. Trop de gens dans ton armée. Dis aux hommes, le lendemain, que ceux qui ont peur peuvent rentrer chez eux. » Lisez-les dans le chapitre 7. Donc, 22 000 hommes retournent chez eux. Gédéon reste avec 10 000 hommes contre l'armée des Madianites qui compte 120 000. Ça fait peur. Mais ce n'est pas tout. Dieu a dépouillé son armée par l'épreuve de l'eau, qui vous pouvez lire aussi au chapitre 7. Finalement, après cette épreuve, Gédéon se retrouve avec 300 hommes contre 120 000. Mais ce n'est pas tout. Dieu dit à Gédéon, « Tu sais quoi? Ne prenez pas de l'épée pour la guerre. Prenez les cruches vides et les torches. » Imaginez cette drôle armée de Gédéon. Un petit troupeau avec des cruches vides et les torches à la main. Pourquoi Dieu fait ça? Parce que Dieu veut lui montrer que ce qu'il a, c'est suffisant. Il ne faut pas plus. Va avec la force qui est en toi. Tout simplement, va. Moi aussi, comme Gédéon, et comme vous, j'aimerais bien avoir de super pouvoirs dans ma vie. J'aimerais bien être un héros dans les virtus pour vivre mieux, pour être quelqu'un de mieux. Mais ce que j'ai, cela me suffit. Ce que tu as, cela te suffit. pour que Dieu puisse faire de grandes choses dans nos vies. Vous savez, les amis auditeurs, parfois j'ai cette impression que pendant que nous supplions Dieu, donne-moi la force et la capacité, Dieu au ciel, il est complètement démuni, car il nous a déjà tout donné. Nous, pendant qu'on supplie, lui, il s'épanche de son ciel, il nous regarde et il nous répète la même phrase. Va, va avec la force qui est en toi. C'est en faisant les choses que Dieu te rendra capable, qu'il te donnera des forces et du courage nécessaires. Seulement fais les premiers pas et va avec la force qui est en toi. Je vous invite aujourd'hui de regarder vos désirs profonds, vos envies de faire de grandes choses. Regardez-les avec courage, sans ce filtre intérieur qui vous dit « cela est impossible ». Et dites-vous vous-même, au nom de Dieu, cette phrase de l'ange. Va avec la force qui est en toi. Tu as tout pour réaliser de grandes choses. Mais compte sur Dieu. Et tu n'as pas besoin de ce que tu n'as pas. Gédéon a gagné la guerre. Il l'a gagnée avec la force qui est en lui. Et cette force, c'est Dieu lui-même, qui était en Gédéon et qui est en toi et en moi. Il faut juste lui faire confiance et ne pas regarder nos capacités, nos efforts, notre réalité humaine. Et comment Gédéon a gagné? Comment finit son histoire? Ben, lisez la suite. Prenez les livres de Juges et savourez cette histoire. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Va avec la force qui est en toi.